Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire derrière les murs. Avant de commencer, nous souhaitons vous adresser un avertissement. Cet épisode évoque des événements historiques marqués par la violence de la période révolutionnaire et contient notamment le récit de la perte d'un enfant ainsi que des références à l'esclavage. Ces éléments peuvent être sensibles pour certaines personnes. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger au cœur de la Révolution française. Non pas à travers les grandes figures ou les événements les plus connus, mais à hauteur d'hommes, de femmes et de familles. À Loches, comme ailleurs, la terreur a bouleversé des destins. Derrière les murs du logis royal et du donjon, des familles entières ont été suspectées, enfermées, jugées. Parfois simplement pour leurs liens, leur silence ou leurs origines. À travers les archives, les lettres et les traces laissées dans la pierre, nous allons tenter de redonner une voix à ces anonymes de l'histoire et de comprendre ce que signifiait vivre et survivre en ces temps troublés. . 1789. Les temps sont durs, la tension est palpable. En cette fin de XVIIIe siècle, la France s'achemine vers une révolution. La situation financière constitue l'une des raisons principales de la crise de la monarchie absolue. Depuis plusieurs années, l'État s'enlise dans un déficit très prononcé. En plus de cela, viennent se surimposer les malheurs du temps. Le climat de la fin du XVIIIe siècle est très difficile. Les hivers 1783, 84 et 85 sont prolongés dans le temps. L'hiver 1788-89 est terrible. Les mauvaises récoltes entraînent une crise de subsistance. Les grains manquent dans les greniers, le prix du pain s'élève rapidement. La République est déclarée le 22 septembre 1792. Le roi Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. En septembre 1793, le régime de la terreur émerge. Il est caractérisé par la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire centré sur le comité de salut public et le comité de sûreté générale. La terreur est d'abord une réponse à une situation de crise totale. Les armées étrangères, Autriche, Prusse, Angleterre, envahissent la France. Des contre-révolutions internes à l'intérieur du pays éclatent. Les guerres de Vendée, par exemple. La pénurie et l'inflation alimentent l'agitation sociale. La politique menée par Robespierre est guidée par le principe selon lequel
la révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis.
Toute forme d'opposition à l'intérieur du royaume doit donc être réduite à néant. Pour effacer les marques de l'ancien système politique, on commence par recueillir les anciens titres féodaux pour qu'ils soient brûlés. Tout comme les élus municipaux, les citoyens doivent fournir des témoignages constants de leur adhésion au nouveau régime. Tout citoyen doit être en mesure de prouver qu'il n'a pas tenté de fuir le pays depuis le déclenchement de la Révolution. Dans le cas contraire, il est accusé d'émigration. Ceux qui ne remplissent pas ces formalités sont suspectés d'opposition à la République et tous les signes considérés comme contre-révolutionnaires sont pourchassés. Le conseil municipal lochois multiplie les rondes de surveillance pour écarter tout complot contre l'œuvre révolutionnaire. Pour lutter contre les formes d'opposition, le 17 septembre 1793, la Convention vote la loi des suspects. Tout individu qui résiste ou qui s'oppose à la République est suspecté et arrêté.
Article 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d'arrestation. Article 2. Sont réputés gens suspects. En 1. Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté. En 2. Ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquis de leurs devoirs civiques. En 3. Ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme. En 4, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou ses commissaires et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier. En 5, ceux des ci-devant nobles, ensemble, les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs et agents d'émigrés qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution. En 6, ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret ou précédemment. Article 5. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêt du lieu de leur détention. À défaut de maisons d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.
À Loche, les premières arrestations interviennent le 20 octobre 1793. Il s'agit majoritairement de personnes accusées d'avoir un proche émigré. Ces personnes sont enfermées dans le logis royal. Des gardiens sont nommés pour les surveiller. Au début de l'année 1794, les détenus se répartissent en 6 chambres qui accueillent 59 personnes au total. Leurs biens sont placés sous séquestre et ils doivent subvenir aux frais liés à leur détention, comme l'alimentation, l'entretien et la rémunération du personnel. Les conditions de détention sont difficiles et des problèmes se posent pour ceux qui disposent de ressources réduites. Les détenus multiplient les demandes et les suppliquent à l'adresse de la municipalité pour que leurs conditions qu'ils désignent comme inhumaines soient étudiées. Ils évoquent notamment la nourriture qui n'est ni bonne ni suffisante. Les registres de délibération de Loche n'évoquent pas d'exécution ni la mise en place d'une guillotine. Dans la ville du sud Touraine, le régime dit de la terreur n'apparaît pas aussi répressif que dans d'autres parties du territoire. Intéressons-nous maintenant à quelques familles lochoises qui ont été inquiétées pendant la terreur. Ces familles, bien installées localement, jouissaient d'une bonne réputation et étaient, pour certaines, proches du pouvoir royal. Commençons avec la première famille, les Nogéré. Joseph de Nogéré est né le 25 juillet 1742 à Rochefort, en Charente-Maritime. Seigneur de Chambourg et de la Filière dans l'Angoumois, il est enseigne des vaisseaux du roi, c'est-à-dire lieutenant, pour le département de Rochefort en 1772, puis officier de marine et chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Il se marie en 1772 au château de Bussière, à côté de Loche, à Rose Charlotte de Mossabré de Chamberlain. Ils auront 5 enfants. Didier Honora, né en 1773, Henriette Françoise, née en 1774, Joseph Louis, né en 1777, Antoine Joseph, né en 1784, et Auguste, né en 1786. Les documents conservés aux archives départementales d'Indre-et-Loire sous la cote L691 nous permettent de connaître les raisons de l'emprisonnement de la famille, les membres présents, les conditions de détention et retrace le combat administratif et légal de Joseph de Nogéré. La famille de Nogéré, c'est-à-dire le père, la mère et les 3 plus jeunes enfants, Joseph, Antoine et Auguste, est emprisonnée le 21 octobre 1793. Leur détention repose sur plusieurs motifs d'ordre politique et social, étroitement liés au contexte de la terreur. Tout d'abord, leur responsabilité en tant que parents d'émigrés. C'est d'ailleurs le motif central. En effet, Didier Honora, le fils aîné, a quitté Loche en décembre 1791. Ce départ faisait suite à une demande de son père de se rendre à Rochefort pour des affaires familiales. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Ensuite, ils sont accusés d'incivisme. La famille aurait tenu des propos inciviques et contre-révolutionnaires. Cette affaire paraît assez simple au premier abord. Mais en plongeant un peu plus dans la lecture du dossier de la famille, nous avons fait des découvertes. Didier Honorat, fils aîné des Nogéré, est entré au service de la marine à 14 ans, au mois d'avril 1787. Ce même service où a servi son père pendant 20 ans. Il quitta son foyer et partit pendant 5 ans sans revenir dans sa famille. Lorsqu'il débarque à Rochefort, en octobre 1791, il demanda congé pour se rendre à Loches auprès des siens. Peu de temps après son arrivée, la famille Nogéré apprend qu'une révolte à Saint-Domingue a dévasté une grande partie de l'île, dont leur plantation. Il s'agit de la révolte des esclaves du mois d'août 1791. Car oui, les Nogéré sont propriétaires terriens sur l'île de Saint-Domingue, actuelle Haïti. Joseph Nogéré explique dans un mémoire justificatif que
« 8 jours après l'arrivée de mon fils, nous apprîmes des désastres arrivés à Saint-Domingue par l'insurrection des nègres et dont un des foyers se trouvant sur notre habitation l'avait entièrement ruiné. Ce malheur me mettant, ainsi que ma femme et 5 enfants, sans pain. »
Il décide donc de faire partir son fils aîné pour Saint-Domingue afin d'essayer de récupérer ce qu'il est possible de récupérer. Or, au lieu d'embarquer depuis Rochefort pour l'île des Caraïbes, Didier Honorat se laisse convaincre par ses camarades de la marine de partir pour la Belgique, sans en avertir sa famille. N'ayant que peu d'argent, il va effectuer une partie du voyage à pied, mais, doté d'une poitrine délicate, comme dit son père dans son mémoire, il tombe malade et meurt à Malmedy le 31 juillet 1792, à l'âge de 19 ans. Pour cacher la vérité à ses parents qui le croyaient à Saint-Domingue, ses camarades ont envoyé de fausses lettres signées au nom du gérant de leur plantation. Ainsi, ce n'est qu'en recevant l'extrait mortuaire de Malmedy que ses parents ont découvert simultanément l'émigration de leur fils et son décès. C'est donc le choix d'émigration de Didier Honorat et sa mort prématurée qui ont eu des conséquences dramatiques pour sa famille. En effet, nous l'avons dit précédemment, Joseph, Rose Charlotte et leurs 3 enfants ont été emprisonnés à Loches. Mais qu'en est-il d'Henriette Françoise, leur fille? Où se trouve-t-elle? Le dossier conservé aux archives départementales présente une lettre écrite par Joseph de Nogéré pour que sa fille soit transférée à Loches pour y être emprisonnée avec sa famille. En effet, Henriette Françoise est emprisonnée dans la citadelle de Brouage en Charente-Maritime, au sud de Rochefort. Son père demande son transfert afin qu'elle soit en arrestation avec sa famille jusqu'à la paix et qu'elle puisse percevoir à Loches les 40 sols par jour que la loi accordait pour la nourriture et l'entretien de chaque détenu dont les biens étaient séquestrés. Le 23 novembre 1794, le représentant du peuple accède à cette demande et autorise le transfert de Brouage vers la maison d'arrêt de Loches. Cette date nous renseigne donc aussi sur le fait que la famille est toujours emprisonnée à la fin de l'année 1794. Cependant, les sources contenues dans le dossier familial ne nous permettent pas de déterminer avec précision quand elle a été libérée. En janvier 1795, Joseph de Nogéré et d'autres détenus, les familles Saint-Chamand, De Tienne, Fontaille et Lalande, signent une pétition demandant à être renvoyés en arrestation dans leurs maisons respectives. Ils invoquent la rigueur de l'hiver, le manque de bois de chauffage et l'insalubrité des locaux qui menacent gravement leur santé. Le dernier témoignage médical date de février 1795 et montre que la santé des parents et des enfants était fortement dégradée par la longue détention et les privations de tout genre. Les Nogéré auront passé environ 1 an et demi en détention. De leur passage, ne restent que 2 fauteuils bergères, conservés au logis royal, mais pas de graffiti. Enfin, a priori. La famille, une fois libérée, restera à Loches et reprendra sa vie dans le microcosme des nobles lochois. D'ailleurs, Joseph de Nogéré sera le parrain d'un bébé, né en 1797, après les événements de la Terreur, bébé qui deviendra célèbre une fois adulte. Il s'agit d'Alfred de Vigny. Les sources archivistiques contenues sous la cote L691 contiennent également le dossier d'une autre famille, le Choise, les de Vigny. Si cette famille est très connue au niveau national grâce aux écrits d'Alfred de Vigny, leur sort pendant la Terreur l'est nettement moins. Les sources détaillent les motifs d'arrestation pour trois membres de la famille, Léon-Pierre de Vigny, son épouse Jeanne-Marie-Amélie de Baraudin et le père de celle-ci, Didier-François Honorat de Baraudin. L'arrestation de la famille a lieu le 10 octobre 1793. Les motifs sont les suivants. Parenté avec un émigré, le frère de Jeanne-Marie-Amélie est visiblement parti à l'étranger. Absence de certificat de civisme, fréquentation suspecte et, pour terminer, indifférence politique. On reproche de n'avoir jamais témoigné son amour pour le nouvel ordre des choses. Pour se défendre, les membres de la famille font valoir leur état de santé précaire. En effet, Léon-Pierre de Vigny est déclaré impotent des deux jambes et d'un bras. Leur isolement social est forcé par la maladie et ils nient toute correspondance criminelle. La santé de Léon-Pierre de Vigny est déterminante pour la détention de la famille et elle conduit à des aménagements majeurs de leur régime pour des raisons médicales. Il sera maintenu en arrestation provisoire chez lui. En effet, son état ne lui permettait pas d'être transporté ailleurs que de son lit à un fauteuil sans le secours de deux personnes. Sa femme obtiendra l'autorisation de rester auprès de lui, malgré le fait qu'elle soit, elle aussi, sous le coup d'un ordre d'arrestation. Les documents conservés aux archives départementales présentent donc le portrait d'une famille de la petite noblesse, dont la vulnérabilité physique est devenue l'ultime argument juridique pour une famille suspecte cherchant à survivre lors de la répression révolutionnaire. Maintenant, les sources nous plongent dans l'intimité d'une famille de notables, les Marsay. Incarcérés depuis plusieurs mois, leurs lettres, écrites depuis leur lieu de détention, sont des rappels désespérés adressés aux autorités révolutionnaires pour obtenir leur liberté. Au centre de l'affaire, si on peut dire, le crime d'émigration, comme pour les autres familles dont nous venons de parler. Considéré à l'époque comme une trahison suprême envers la patrie, la famille est inquiétée car le fils pour les parents Marsay et le mari pour leur fille Louise-Joséphine ont fui le territoire. Mais qui est cette famille de Marsay? Le père de famille s'appelle Côme François-Claude de Marsay. Son épouse, Marie-Joséphine Vidard de la Ferrandière. Le couple a quatre enfants. Louise-Joséphine, née en 1768, Henriette-Françoise, née en 1769, Adélaïde-Victoire, née en 1770, et Côme-Pierre, née en 1773. La famille réside à Loches, dans la maison dite de l'Écuyer du Roi, en contrebas du logis royal. Logis royal dans lequel ils seront incarcérés. Avaient-ils la vue sur leur maison depuis leur lieu de détention ? C'est fort probable. Comme les autres détenus dont nous venons de parler, les Marsay ont été faits prisonniers à partir d'octobre 1793. L'analyse des sources révèle une situation dramatique touchant la famille. En effet, la notion de responsabilité collective lie le destin de Louise-Joséphine à celui de ses parents et de ses sœurs. Louise-Joséphine épouse Jacques de Ponard en 1791. Elle dit dans une lettre.
J'ai été mariée au mois de janvier 1791. J'avais 20 ans. Jusque-là, les travaux qui conviennent à mon sexe et les plaisirs de la société des compagnes de mon âge avaient partagé tout mon temps. J'étais dans la plus parfaite ignorance de tout ce qu'on appelle politique. Mon mari demeurait dans une campagne isolée. J'y fus confinée après mon mariage. Je passais ainsi de l'autorité de mes pères et mères sous celle de mon époux.
En septembre 1791, alors qu'elle est enceinte de 7 mois, son mari la quitte sous prétexte d'affaires à Paris.
8 mois après mon mariage, à la fin de septembre 1791, mon mari m'annonça qu'une rente assez conséquente, qu'il m'a dit avoir à Paris, devait lui être remboursée. Il me prévient en même temps qu'il serait obligé d'aller toucher ce remboursement. Cette nouvelle m'affligea sensiblement. Mon mari me laissait grosse de 7 mois. L'idée de ma solitude me devient affreuse. Je lui fis les plus vives instances de ne pas se séparer de moi. Il me dit qu'il lui était impossible de se rendre à mes vœux, qu'il s'exposerait à perdre une partie conséquente de sa fortune. En quoi consistait sa fortune? C'est, je l'avoue à ma honte, ce qui ne m'avait pas encore occupé. Mes parents m'avaient assuré que mon mariage était avantageux et je vivais dans cette sécurité. Enfin, mon mari partit. Avant ce départ, je n'avais jamais versé de larmes que pour des sujets frivoles. Je me doutais peu qu'elle deviendrait intarissable.
Elle poursuit sa lettre en expliquant que ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle a appris que son mari avait émigré pour tourner.
À peine le sieur Ponard fut-il parti, que je me disposais moi-même à me rendre auprès de mes pères et mères comme il me l'avait permise. Je fus à la cassette prendre quelques fonds. Je l'ai dit, je n'avais point le suré de nos affaires. J'étais assez légère pour n'y prendre aucun intérêt. Je savais cependant par mon mari qu'il devait avoir une somme assez conséquente. Je n'en trouvais qu'une très modique. Cet incident m'ouvrit les yeux. Je fis les plus tristes réflexions. Mon mari était jeune, il se rendait à la capitale. Je suspectais son inconstance et je présumais qu'il n'avait fait ce voyage que pour se livrer à son plaisir. Mon âme fut remplie d'amertume et je lui fis, par le premier courrier, les plus vifs reproches et les instances les plus fortes de se rendre auprès de moi. Je ne reçus qu'une lettre de lui datée de Paris, j'en attendais une seconde. Le courrier qui devait me la procurer ne m'en apporta point. Mes craintes et mes soupçons redoublèrent, mais j'étais bien loin de prévoir toute l'étendue de mes malheurs. Enfin, je reçois une lettre de Tournai. Je crois reconnaître l'écriture de mon mari. Je l'ouvre et j'y lis ce que je ne pensais recevoir encore, que c'était par des conseils pervers. Il a quitté sa patrie. Ainsi, je suis sacrifiée au bout de 8 mois de mariage, grosse de 7 mois, jeune, sans la moindre expérience, et il ne me reste de ressources que les larmes et le désespoir.
Louise Joséphine accoucha d'un garçon le 7 décembre 1791, auquel elle donna le prénom d'Édouard. Elle poursuit.
Je devins mère. Je me flattais que le nom de père le toucherait plus que celui d'époux. Je lui fis part de cette nouvelle avec la confiance du plus heureux succès. Un premier-né fait tant d'impression sur l'auteur de ses jours. Rien ne put le toucher. Je suis restée la victime de sa criminelle inconséquence. Mais au moins mon âge, mon peu d'expérience, l'état dans lequel il me laissait, le peu de temps qui s'était écoulé pendant notre union, tout atteste de mon innocence. Et comme si tous les coups les plus poignants du sort devaient m'accabler à la fois, j'ai été mise en arrestation. Je n'ai pu me déterminer à me séparer de mon jeune enfant, et j'ai eu le malheur de le voir périr. Ainsi, rien ne m'attache plus à celui dont le coupable abandon m'a jeté dans l'état le plus déplorable.
En effet, Louise Joséphine perd son fils le 17 janvier 1794. Son décès est déclaré par les concierges de la maison de détention, Louis Filin et Julien Buot. Sur son acte est mentionné que son père, Jacques de Ponard, est émigré depuis plusieurs années et sa mère détenue en cette maison. Édouard venait d'avoir 2 ans. Elle termine sa lettre par
les motifs qu'on allègue contre moi ne peuvent donc justifier la détention que j'éprouve depuis 10 mois. Captivité bien cruelle pour une mère forcée d'habiter le lieu où elle a vu périr son fils unique. Captivité à laquelle elle doit cette perte affreuse. Tout atteste de mon innocence. Je sollicite donc avec confiance de votre justice et de votre humanité de me rendre ma liberté. Fait à Loche, ce 3 fructidor l'an second de la République française, un et indivisible.
la famille présente une défense collective face à la justice révolutionnaire. Les documents montrent clairement une famille unie dans la protestation contre une détention qu'ils jugent injuste et cruelle. Les derniers courriers contenus dans leur dossier datent de Fructidor en 2, soit les mois d'août-septembre 1794. Ces courriers correspondent à la chute de Robespierre en juillet 1794 et à la fin de la Terreur. La famille espère donc que le nouveau contexte politique entraînera leur libération. Qu'en est-il vraiment ? La découverte d'un graffiti va nous permettre de faire un bond considérable sur ce dossier. Sur ce graffiti, situé dans une salle du rez-de-chaussée du logis royal, nous pouvons lire.
Côme Marsay, Vidard Marsay, sa femme, Henriette Marsay, Adèle Marsay, leur fille, Joséphine Marsay, femme Ponard, détenue depuis le 20 octobre 1793 jusqu'au 9 janvier 1795.
20 octobre 1793, 9 janvier 1795. Presque 2 ans. Aucune lettre ne mentionne leur libération, l'état physique et psychologique dans lequel ils se trouvaient. Mais, tout comme les Nogérés, les Marsay resteront à Loches après les événements de la Terreur. Le fils, Côme Pierre, deviendra maire de Loches entre 1826 et 1830. Louise-Joséphine retrouvera son mari, Jacques de Ponard. Ils iront vivre à Varennes, sur les terres de la famille paternelle. Ils auront une fille, Joséphine, née en 1805, qui deviendra propriétaire d'une maison dans l'enceinte de la Cité Royale, aux 2 rue Foulquenéra. La famille de Marsay est particulière, pour nous, médiateurs de la Cité Royale. En effet, la famille aura laissé 3 graffitis dans 3 endroits différents. Un graffiti au logis royal, au rez-de-chaussée, nous en avons déjà parlé. Un autre dans les charpentes. Un dernier se trouve enfin au donjon, ce qui nous laisse penser que la famille aura donc connu 3 lieux de détention. En plus de ces graffitis, leur nom apparaît sur 2 fauteuils exposés au logis royal dans les appartements d'Anne de Bretagne. Ces fauteuils sont le point de départ de nos recherches sur la période révolutionnaire. Et ils sont aussi le point de départ de tout notre travail de compilation de données archivistiques concernant la Terreur qui, aujourd'hui, nous permet de vous parler de cette période méconnue de l'histoire de nos monuments. Ainsi s'achève cet épisode de Mémoire derrière les murs. À travers les parcours des familles Nogéré, Vigny, Marsay, c'est une autre vision de la Terreur qui se dessine. Une histoire intime, faite d'attentes, d'angoisses, d'espoir et de pertes irréparables. Ces destins nous rappellent que la Révolution ne s'est pas seulement jouée dans les assemblées ou sur les champs de bataille, mais aussi dans des lieux clos où des vies ordinaires ont été suspendues aux décisions d'un pouvoir en crise. Aujourd'hui encore, les traces de ces existences subsistent, dans les archives, dans quelques objets et même gravées sur les murs. La chute de la monarchie marque la fin de la prison royale. Dans ces murs se trouveront désormais des prisonniers venant du peuple, des mendiants, des déserteurs par exemple. Après l'apparition du code pénal de 1791, de nouveaux lieux d'enfermement apparaissent. Les maisons d'arrêt pour les courtes peines et les prévenus, et les maisons centrales pour les longues peines. À Loches, le changement ne s'opère pas d'un seul coup. La prison royale glisse doucement vers son nouveau régime, la maison d'arrêt et de correction, autrement appelée la prison départementale. La prison départementale entre 1801 et 1926, c'est l'horizon du prochain épisode de Mémoire derrière les murs.